Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. À 15h, Jules est assis avec ses camarades de classe pour la cérémonie de distribution des prix. Maurice se trouve devant lui. Jules le voit de dos. Un orchestre d'élèves joue une marche solennelle et arrivent les personnalités. Tout le monde se met en place.
Une belle lettre, comme tu sais les écrire. Une belle lettre d'académicien. Il croit tout ce que tu lui dis. Georges, qu'est-ce qui compte? C'est leurs histoires ou c'est le sang qu'on a échangé? Vous l'avez fait, oui ou non?
Oui.
Alors rien ne peut plus vous séparer, c'est un fait.
Classe de seconde.
Puis, la longue distribution des prix. Jules voit sa famille avec les parents dans le fond. Il se demande qui sont les parents de Maurice. Et puis, quelle importance.
Prix de français, premier prix, Georges de Sartre.
Deuxième prix. Lorsque ça a été son tour de monter sur l'estrade pour aller chercher son prix, Jules l'a bien regardé, fier, souriant, mais lui ne l'a pas regardé. Puis, ça a été à son tour. Il était ni fier ni souriant, et lui n'a pas regardé du côté de Maurice, mais par pure timidité. Puis la cérémonie s'est terminée. À la fin de la cérémonie, Jules a retrouvé son frère et sa sœur, qui eux aussi ont eu des prix. La cérémonie des filles s'est passée dans l'aile des filles. Sa mère l'a embrassé et lui a dit « T'as bien travaillé, allez mes enfants, l'on part !» Charles Landré lui a dit « Attends mère, je dois dire au revoir à mes camarades !» Jean dit « Moi aussi, alors allez-y vite !» « Tu ne veux pas dire au revoir à tes camarades, Jules ?»« C'est déjà fait, mère !» 5 minutes plus tard, ils reviennent et ils quittent le lycée. Votre frère rentre ce soir. Et demain, nous partons, si tout va bien. Constant de Bonlandin arrive chez lui à 19h. Il va retrouver sa famille au salon qui l'attend. Dès qu'il a ouvert la porte, tout s'accourt à lui. Même Jules, qui pourtant n'est pas en joie. Constantin embrasse sa femme et ses enfants. C'est un homme grand, mince, élégant, les cheveux châtains, le visage osseux et autoritaire. Allons-y, mes enfants, montrez-moi ce que vous avez eu comme prix. On le mène à une table où il y a tous les livres. Jules aussi montre ce qu'il a reçu sans enthousiasme. Et durant le dîner, le père donne des nouvelles de Paris. La foule hurle à la guerre. J'ai jamais vu une telle rage. À mon avis, ce sont les républicains qui ont monté ça. Ils veulent forcer l'empereur à se battre. Sa femme lui demande « Et pourquoi cela ?» Parce qu'ils savent très bien que si l'empereur perd la guerre, c'est la fin de l'Empire. Et le retour de la République. Mais si l'Empire perd la guerre, c'est la France qui la perd, et ce sera terrible pour le peuple. La République s'en moque. Leur but, à atteindre, c'est la chute de l'Empire, par tous les moyens, même par la misère de la France. Et l'empereur, que va-t-il décider ? Il n'est pas chaud pour la guerre, car il sait que l'armée française est faible. Il avait demandé des augmentations pour le budget de l'armée, pour la moderniser. Elle a été refusée par ce même qui aujourd'hui demande la guerre. L'empereur hésite à déclarer la guerre, mais le peuple est chauffé. Je crains que malheureusement, l'on l'y oblige. Que faisons-nous ? Nous partons ? Si la guerre est déclenchée, nous serons plus en sécurité à Biarritz qu'à Lyon. Avec les ouvriers canuts, on ne sait jamais. Alors, partons, voyons. Dans la nuit, dans son lit, Jules a beaucoup pleuré. Il s'est retenu toute la journée, mais enfin seul, il a pu épancher son chagrin. Premier vrai chagrin d'amour. Il aimerait faire taire cette voix qui lui dit que tout est fini. Et cette gorge qui se serre, cette envie de vomir. J'aimerais tout oublier, sombrer dans le sommeil, mais il ne peut pas. Qu'il ne s'en rende compte, il s'est endormi. Et au milieu de la nuit, il a fait des cauchemars. Il s'est réveillé le lendemain matin et tu lui es revenu, la gorge serrée. Il n'a pas envie de se lever. Quel con ce Maurice! Il vient de dire ceci à haute voix malgré lui. C'est la sortie de sa torpeur. Surpris, il continue. Oui, c'est vrai, quoi. Il m'a joué le jeu de l'amitié pour que je l'aide et maintenant qu'il n'a plus besoin de moi, il me laisse tomber. On a frappé à la porte. Vous êtes réveillé, monsieur Jules ?
C'est la bonne.
Oui ? Dépêchez-vous, vous savez que nous devons partir ce matin.
Pour éviter les histoires, Jules se lève. Ils sont partis à 9h avec une berline pleine. Il fait beau, le ciel est bleu, d'un bleu profond. Jules regarde le paysage qui défile pendant que son frère et sa sœur jouent aux cartes. Le père note dans son carnet les dépenses qu'il a fait à Paris pour sa comptabilité. La mère pense à tout ce qu'il faudra faire en arrivant. Ils partent pour 3 mois, mais on ne sait pas vu les événements. Jules a vu Paris s'éloigner et se dit que sûrement Maurice doit dormir encore. Maurice ira dans 15 jours en Bretagne. Peut-être, en pensant à tout ce qu'il a fait, il aura honte et qu'il lui enverra une carte de là-bas. Alors ils pourront redevenir amis. Quant aux autres du lycée, après 3 mois, ils ne penseront plus, ils auront oublié cette histoire. Tout en pensant à cela, Jules voit qu'il roule maintenant en rase campagne. L'on suit une route qui longe le Rhône. Jules voit des visages, des villages sur des collines verdoyantes, maisons de pierre beige. Le voyage se passe calmement. Ils ont fait des haltes pour manger et se dégourdir les jambes. La campagne est douce et très odorante. À mi-parcours, ils ont couché dans une auberge d'un petit village du Midi. Puis, le lendemain, ils sont arrivés à Biarritz. Dès que Jules a vu la mer, son corps s'est desserré. Il a été ébloui par cette eau d'un bleu argenté, tellement lumineux qu'elle fait cligner les yeux. Il longe une petite route qui les mène à leur village. Petite bâtisse de 3 étages au bord de la mer, avec un grand jardin fleuri, des arbres. La villa est toute blanche, avec ses colonnades, une terrasse, des salons. Ça n'a pas vraiment de style, mais ça fait rêver. Et ça se marie merveilleusement bien avec le décor. Ce genre de choses que les modernes et les stylistes n'ont pas, mais que les gens adorent et font rêver. Derrière la maison, qui est bâtie sur un rocher, se trouve un bout de terrain qui va jusqu'au gouffre de la falaise. Jules aime cette maison, ce blanc, ce bleu, ces formes multicolores. Tout de suite, elle a oublié les mois de grisaille à Lisieux. Mais une fois que le jardinier qui habite toute l'année ici a ouvert la villa, tout s'affaire pour donner vie aux pièces. Les domestiques et la mère enlèvent les housses des meubles, ouvrent les fenêtres. femme de chambre va faire les lits avec des draps venus de Lyon. La cuisinière a mis le feu en marche et prépare le dîner. Les enfants vont se changer et ranger leurs affaires dans leur chambre. Le père va à son bureau en pierre pour y déposer les dossiers qu'il a amenés. Une fois que tout est en place, l'on voit que toute la maison est meublée Louis XV. C'est le grand-père qui a acheté ces meubles à une vente aux enchères. Après avoir fait tout ça, la fatigue du voyage commence à se faire ressentir. Une fois que le dîner qu'ils ont pris sans entrain, ils ont décidé d'aller dans leur chambre. Le lendemain, Chorquant essaye d'organiser sa vie de vacances. Jules, qui est hypnotisé par le paysage, souffre moins de Maurice. À part la nuit, il ne pense presque plus à lui. La mère a décidé de passer ses vacances assise sur une chaise longue à lire. Le père, le matin, fera de la marche le long de la mer et l'après-midi travaillera à son bureau. La nature préfère la ville. Il décide donc, dès le premier jour, d'aller dans le centre de Biarritz pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Sa sœur l'accompagne. Elle porte une robe blanche et un chapeau blanc aussi. Son frère, une veste marine et un pantalon blanc. En marchant sur la route, elle dit à son frère : quel endroit affreux, triste. Mère oublie que nous ne sommes plus des enfants. Tu as raison. Que faisons-nous ? Elle lui dit en soupirant. Je ne sais pas, il n'y a rien. Il lui dit. Alors, allons à la plage. Et ils y vont. Jules reste assis près de sa mère à lire. Il a pris Robinson Crusoé. J'ai toujours rêvé de faire comme lui. Bien avant de lire le livre, il connaissait déjà l'histoire. Maintenant qu'il l'a lu, il est un peu déçu. Il aurait voulu que le héros soit moins sage, plus jeune et moins philosophe. Mais malgré tout, il rêve de faire comme lui. Sa mère et lui sont assis sur des chaises longues en bois blanc près d'un arbre, ce qui leur donne un peu de fraîcheur et d'ombre. Au bout d'un moment, sa mère lui demande « Tu t'ennuies pas trop ?»« Non, pas du tout. Je suis très bien. » « Je t'ai trouvé un peu triste ces derniers temps. » « C'était la fatigue, la chaleur. » Elle s'étire. Elle lui dit « Je vais dire au jardinier de me tailler quelques roses pour la salle à manger. » Elle ferme son livre et se lève. Je lui dis « Je vais avec toi. » Il se lève et ils vont tous deux dans le jardin, près du jardinier, en train d'enlever de la mauvaise herbe. À côté de lui, il y a un garçon d'une douzaine d'années, maigre, mais avec grâce, cheveux châtains courts, le visage mince et joli. Il est habillé d'un pantalon short anglais marron et d'une chemise bleue. Jules l'a remarqué malgré lui et le trouve très agréable. Mais une pensée adulte lui vient malgré lui. Le fils du peuple sera sûrement moins arrogant que l'autre. Cette mauvaise pensée s'efface vite, car il est tout de suite séduit par sa grâce. Il est moins beau que Maurice, bien sûr, moins distingué, mais tellement plus gentil et plus câlin, plus calme. Lorsque le jardinier voit Madame Beaumardin, il se redresse, son fils ne bouge pas. Elle lui dit « Monsieur Martin !»«
Oui, madame. » »«
Je vous présente mon fils, madame. » »«
C'est très bien. Il est très joli. Comment s'appelle-t-il déjà ?»«
Gilles. »
Enchanté, Gilles. Je suis venu c'est vous demander si vous pouviez nous couper quelques roses pour la salle à manger.
Bien, madame.
Elle regarde son fils et Gilles.
Gilles, va te promener avec Gilles. Vous voulez bien, monsieur Martin?
Bien sûr, madame. Je vous remercie, madame. Gilles, remercie madame.
Merci, madame.
Bon, eh bien, je vous laisse.
La mère les quitte. Le jardinier dit aux enfants
« Allez donc vous promener sur la route qui longe la mer. »
Jules dit à Gilles « Tu viens ?» Et l'enfant le suit. Une fois qu'ils ont quitté le jardin et pris la petite route qui longe la mer, Jules demande « Tu habites toujours ici ?»«
Non,
que pendant les vacances scolaires et encore que lorsque vous venez. Autrement, je suis chez ma tante. » Et pour l'école, je suis en pension. Comme ma mère est morte, mon père ne peut pas s'occuper tout le temps de moi. Je lui demande, ça te plaît la pension? Au début, c'est dur, mais on s'y fait, puis on se fait de bons amis. Et toi?
Moi, je suis à Lyon, dans un lycée.
Je lui dis, c'est pas la même chose, tes parents sont riches et tu seras riche. Je lui dis, c'est pas aussi simple que ça, et moi, ça ne m'intéresse pas de faire comme mon père. Je rêve plutôt de voyage. Je voudrais voyager pour écrire ce que je vois. Et toi?
Moi aussi, les voyages me tentent. J'aimerais être marin, mais ce n'est pas facile. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le livre que tu as?
Jules le lui montre. C'est Robinson Crusoe. Tu connais?
Oui, bien sûr. Jules lui dit.
Je rêvais de faire comme lui.
Moi aussi. Et je connais un coin si tu veux. On pourrait être tranquille et construire une cabane pour nous.
Oui, je veux bien. Alors allons-y. Et ils y vont.
Gilles l'a mené dans un bout de plage en dehors du monde. La plage est petite et donne directement dans un petit bois. Tu vois, c'est ici. C'est magnifique. Jules est heureux d'avoir fait la connaissance de Gilles. C'est tout de même autre chose que Maurice qui ne pensait qu'aux filles et à sa tenue vestimentaire. Désormais, tous les après-midi, ils vont vers leur plage, construire leur cabane et jouer au Robinson. Jules s'est vite rendu compte que ce n'était pas facile de construire une cabane, surtout si l'on veut qu'elle tienne. Il faut choisir les branches, calculer leurs dimensions, les fixer et avant préparer le sol. Ce travail les passionne. Ils passent des jours à faire et défaire ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas évident de faire en sorte à ce que ça puisse tenir debout. La journée, la chaleur est très forte, mais dans leur passion, ils ne la sentent pas. Ils amènent à boire et à manger. Ils sont rouges comme des écrevisses. Quelquefois, la mère de Jules lui dit de ne pas sortir car il fait trop chaud. Mais Jules part tout de même voir son ami. Après de nombreux efforts, la cabane est finie. Elle n'est pas très grande, en forme de igloo, avec une ouverture basse. Il faut se baisser pour y rentrer et on peut être debout à l'intérieur. Ils sont assis en tailleur, l'un à côté de l'autre. Il y fait sombre, ça sent le bois et c'est étouffant. Jules dit, nous sommes chez nous. Il reste un moment sans bouger. À part le bruit de la mer, il n'y a pas le moindre bruit. Jules a l'impression d'être hors du monde. Il aimerait toujours être ainsi avec son ami Gilles. Gilles lui dit, plus tard, nous l'agrandirons et nous amènerons tout ce qu'il faut. Jules est heureux. Le lendemain, il décide de faire une pièce supplémentaire, plus haute et plus grande. Ils feront une ouverture à la cabane pour accéder à cette nouvelle pièce. Pendant ce temps, Charles-André s'ennuie. Il n'est ni un enfant, ni un adulte, ce qui fait qu'il ne peut jouer comme un enfant et avoir des occupations d'adulte. Souvent, il part seul et va sur la plage. La chaleur lui rappelle son corps. Il se sent beau, désirable.
est fait pour qu'on l'aime. En marchant sur cette plage, au milieu des regards, il sent malgré lui du désir. Il n'est pas comme la plupart des adolescents qui sont gênés par leur corps. Lui, c'est le contraire. La nuit, dans sa chambre, il rêve de liaison amoureuse où une femme très riche l'emmènerait avec elle. Il rêve de s'évader de ce monde étriqué de sa famille, pouvoir se prouver sa puissance sur les autres par son physique. C'est un narcissique pervers dans le sens trouble. À 15 ans, ses sens se sont suffisamment éveillés pour avoir ces désirs-là. La nuit, dans son lit, se masturbe, sans arrière-pensée, sans remords, mais en goûtant le plaisir à fond. Sa famille ne se rend pas compte de ce changement. Ils le voient tous les jours, mais les parents sont trop occupés par les événements en France. Charles-André, lorsqu'il se promène sur la plage ou marche dans les rues de Deauville, alors qu'il se dit beau, désirable et rêve de rencontre, grâce à ses 15 ans, il n'oserait jamais aborder qui que ce soit. Heureusement, car s'il en avait eu 3 de plus, une fin d'après-midi qu'il est assis sur un rocher à regarder le ciel et la mer, le soleil descend tout doucement et donne une lumière dorée, hypnotisé par le paysage. À force de voir la mer et le ciel, les yeux restent fixes. Son visage adoré, ses vêtements de toile blanche donnent un côté irréel. Marche lentement sur la plage, une femme en robe blanche avec une ombrelle. La voit à peine, elle fait partie du paysage comme une personne peinte sur un tableau. Il sort de sa rêverie lorsqu'elle s'approche de lui. Sous la voilette de son chapeau, il voit que c'est une femme d'un âge, les 50 ans. Elle lui sourit.
Bonjour, jeune homme, vous êtes seul?
Il rougit et lui répond.
Oui, madame.
Oh, madame, je suis la Deville Doré. Et vous?
Charles-André Beaumandin.
Vous vivez chez vos parents?
Oui, madame.
Je vous vois tous les après-midi, seul, comme moi. La solitude ne vous ennuie pas trop?
Un peu, madame.
Moi aussi. Même beaucoup. J'ai besoin de compagnie. C'est long. Les journées seules. Surtout lorsqu'on aime la jeunesse. Si vous le permettez, je peux vous inviter chez moi. J'ai de très bons chocolats et de très belles montres. Mon mari était collectionneur de montres. J'en ai de très jolies et rares. J'en fais cadeau à chaque jeune homme qui vient me voir. Cela vous dirait de venir prendre un chocolat chez moi? Je n'habite pas très bien loin. Juste la villa, là.
Charles-André ne dit rien. Elle lui met la main sur la sienne et lui dit
« Cela ne ferait si plaisir. Vous avez de si jolis yeux. »
Elle lui sourit. Charles-André a compris et se dit qu'il va être obligé de passer à l'acte et qu'il a peur de paraître ridicule. Elle voit qu'il hésite, elle lui dit
« Ne craignez rien. J'ai l'habitude. Tous les jeunes gens qui sont venus chez moi ne l'ont pas regretté. Venez. »
Il se lève. Elle sourit. Il la suit, un peu gênée tout de même. Elle le mène dans une grande villa blanche au bord de la mer. Elle est plus petite que celle de ses parents et n'a qu'un tout petit jardin. Il la suit malgré tout, mais hésitant un peu, car c'est la première fois qu'il va avec une inconnue et en plus une femme mûre, pourvu que sa famille ne le sache pas. Elle va ouvrir la porte de sa maison pour le faire entrer.
Ne craignez rien, je vis seule pour être plus libre.
Dans le petit couloir, elle ferme son ombrelle, quitte son chapeau et ses gants. Elle paraît plus vieille. Elle le prend par la main et lui dit
« Venez !» « Entrez !»
C'est un salon.
« Asseyez-vous !»
Elle le fait asseoir sur un canapé près d'une table blanche.
Je vais chercher le chocolat.
Elle va chercher le chocolat qui a tout juste à être réchauffé à la cuisine. Car chaque jour, dans l'espoir de ramener une rencontre, elle prépare avant de partir à la chasse aux jeunes gens le chocolat pour aller plus vite. Elle s'est débarrassée de ses domestiques pour pouvoir être plus libre. Mais tout Deauville connaît ses malliances. On l'appelle la tatine chocolat. Et c'est que beaucoup de jeunes y ont passé. Charles-André attend embarrassé et regrette d'être venu. Il n'ose pas s'en aller, mais a hâte de partir. Et à la première occasion, il se promet de partir. Enfin, elle est revenue avec un plateau, le sourire aux lèvres. J'ai oublié, c'est de vous dire, c'est que cette dame, déjà d'un âge, est grande, mince, les cheveux roux, en chignon, et que son visage est fortement maquillé de blanc et de noir autour des yeux. Le blanc, bien sûr, c'est sur tout le visage. Comme cela, elle s'imagine paraître plus jeune que son âge, avoir un teint de toute jeune fille. Elle s'est parfumée, derrière les oreilles et sur ses parties intimes, avec du parfum à l'odeur de lavande.
Elle va s'asseoir sur le divan à côté de Charles-André. Et elle commence à servir le chocolat fumant, bouillant. Madame. Vous avez les brioches, pouvez vous servir. Merci, madame.
Charles-André n'a plus faim. Il se sent maintenant un tout petit garçon. Tout petit garçon. Pauvre petit garçon. Elle sourit et est émue par son trouble. Elle adore les tout jeunes gens. C'est autre chose que ces hommes qui
veulent vous posséder ou vous dominer.
Il tremble en prenant sa tasse et à toutes les peines du monde à boire.
Une brioche ?
Non, merci.
Mais si, vous aurez besoin de prendre des forces.
Il la prend et la mange sans faim. Elle dévore et le dévore des yeux.
Vous en voulez encore une ?
Il est tout rouge.
Non, merci.
Elle lui caresse ses cheveux, lui donne un baiser sur la joue.
Venez, je vais vous montrer mes collections de montres. Vous verrez, vous allez pouvoir en choisir une.
Elle se lève, lui tend la main, il la prend, il se lève lui aussi. Et la suit. Ils sortent du salon. Dans le couloir, elle va ouvrir une autre pièce.
Entrez.
Il entre. C'est une chambre avec un grand lit. Et, sur un côté du mur, une vitrine.
Venez.
Elle le conduit à la vitrine.
Bien aligné, il y a sur des rayonnages des montres de toute taille et forme. Elle ouvre la vitrine et lui dit
« Vous voyez comme elles sont belles ?»
Elle en prend une pour la lui montrer.
« Elle vous plaît ?»«
Oui. » »«
Mais avant que je te la donne, il faut que toi, tu me montres quelque chose. »
Elle le regarde bien et avec ses mains, elle déboutonne son pantalon. Il baisse les yeux, il est tout rouge et n'ose pas bouger. Elle met la main dans le pantalon et sent à travers le caleçon le sexe qui, au contact de sa main, se raidit. Descend le pantalon.
Et le caleçon.
Se baisse. Et le suce. Charles-André se raidit de plaisir malgré lui. Car la chose n'est pas belle à voir. Cette vieille qui le suce avec les yeux qui le sortent de la tête. Une tête osseuse. Une fois qu'il est joui dans la bouche de la vieille, elle s'essuie avec un mouchoir. Elle se redresse.
« Ça t'a plu ?»
Il lui fait vouer de la tête. Elle lui sourit, lui dit
« Recule-toi !»
Il se reculote penaud. Elle lui tend la montre et la lui donne.
« Tiens, tu l'as méritée. »
Il la prend.
« Merci. »
Elle la met dans sa poche. Elle l'embrasse sur la joue. Elle lui dit.
« La prochaine fois que tu reviendras, je t'apprendrai à faire vraiment l'amour. » »« tu veux bien?
Oui.
Et si tu t'en sors comme il faut, tu auras 2 pièces d'or. Allez, ils ont de partir maintenant.
Et ils sortent de la chambre, elle ne fait pas sortir de la maison. Au revoir.
Au revoir, madame.
Charles-André, sur le chemin qu'il ramène à la maison, est troublé. Il repense à ce qui lui est arrivé. Sur le moment, ça n'a pas autant excité que ça. D'abord parce qu'il était intimidé, ensuite parce que la femme n'était pas belle, elle était même laide. Mais en repensant à ce qu'il a fait, à ce qu'elle lui a fait, cela l'excite plus. Car seul le dégoût n'est plus. Il n'y a que le plaisir et une envie folle lui prend d'y retourner.
Lorsqu'il arrive à la villa de ses parents, il est presque l'heure de dîner. Il monte tout de suite à sa chambre pour se changer. Là, il se souvient de la montre. Il la sort de sa poche. Que va-t-il en faire? Il ne peut pas la mettre, car ses parents lui demanderaient où il l'a eue. Et un jeune homme de 15 ans ne peut pas la vendre. Alors il décide de la garder toujours dans sa poche. Tout à coup, il se dit qu'on vient de lui offrir une montre en or qui coûte une fortune pour sa virilité, pour son corps, et que s'il veut, il aura de l'or. Il se sent puissant, fort et orgueilleux. L'on a frappé à la porte, il n'a pas eu le temps de se changer. Vite, il va changer de veste et se coiffer, tant pis pour le pantalon et la chemise.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.